l'inéluctable ascension des mandataires immobiliers entre mythe et réalité. Une émission spéciale présentée par Nicolas Tarade.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Immo dans cette émission un peu spéciale, une plongée pédagogique, je l'espère, passionnante, j'en suis sûr, dans l'univers de la transaction immobilière, avec une focale mise sur l'avènement des réseaux d'agents commerciaux indépendants, les réseaux de mandataires, des réseaux crédités de près de 20% de part du marché intermédiaire. Ils font donc clairement partie du paysage aujourd'hui. Pourtant, il faut le dire, la communauté immobilière ne les a pas encore accueillis à bras ouverts. On aime encore poser une hiérarchie entre les premiers arrivés dans l'histoire et ses nouveaux entrants. L'idée de cette émission, c'est de donner la parole à toutes celles et ceux qui font le marché, c'est de poser un diagnostic aussi bref, c'est d'avoir un débat constructif autour de l'inéluctable ascension des mandataires immobiliers.
L'inéluctable ascension des mandataires immobiliers, entre mythe et réalité, l'émission spéciale autour du rapport écrit par Vincent Pavanello.
Justement, il est à mes côtés, Vincent Pavanello, l'auteur de ce rapport de 70 pages intitulé « 40 000 entrepreneurs au service de nos projets immobiliers ». La sémantique est importante. Bonjour Vincent Pavanello.
Bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien, en pleine forme.
Bon, on va revenir évidemment point par point sur ce qui est dit dans le rapport et la manière dont vous l'avez conçu. Un rapport préfacé par la présidente de l'UNIS, Danielle Dubrac. Bonjour.
Bonjour.
Même question, vous allez bien ?
Bonjour à tous et à toutes, je vais très bien, je suis ravie d'être là.
Bon, parfait, ravi également. Une voix syndicale, une voix universitaire, il nous manque celle des patrons de réseau. Nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. Bonjour Clément Delpirou, mille merci d'avoir accepté notre invitation. Pareil, vous allez bien ?
Très en forme, pas autour de vous, autour de la table, mais ravi de participer à ce débat également.
Bon, ce sera l'occasion une prochaine fois quand les mesures sanitaires seront un petit peu plus allégées, on va dire. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général du groupe IAD. Beaucoup de questions, évidemment, à vous poser. Et puis, je suis très honoré aussi qu'il soit parmi nous aujourd'hui Stéphane Fritz, président du réseau de franchise Guy Hoquet. Bonjour Stéphane.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous.
Même question, vous allez bien ?
Très très bien.
En pleine forme ?
Ravi d'être ici également.
Bon, c'est partagé. Voilà donc pour le casting de cette émission spéciale sur Radio Immo. Ce que je vous propose à toutes et tous, eh bien, c'est de rentrer dans le vif du sujet avec une première question, peut-être pour vous, Vincent Pavanello. Qu'avez-vous voulu montrer au travers de ce rapport ?
Écoutez, Nicolas, c'est la première question et c'est la bonne question. Ce que j'ai voulu faire avec ce rapport et en partenariat avec les réseaux qui ont répondu à l'ensemble de mes questions, en partenariat avec l'UNIS qui a bien voulu, par la voix de sa présidente, préfacer ce livre blanc, c'est faire œuvre de transparence sur ce qu'étaient les réseaux, ce qu'avait été leur fonctionnement, ce qui était potentiellement leur avenir, avec trois parties dans le rapport, pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui peut-être auront envie de le lire. Une première partie descriptive, quel est le modèle des réseaux mandataires ? Est-ce que, comme je l'avais parfois entendu, et c'est un cadre réglementaire qui n'est pas tout à fait strict ou pas tout à fait défini, je montre, je pense qu'au contraire, il y a un cadre réglementaire qu'on peut contester, dont on peut remettre en cause un certain nombre de règles, mais qui existe, qui est là, qui est bien défini, qui est bien compris, je pense, à la fois par les réseaux et par les mandataires. Une deuxième partie qui est une mesure du poids économique, puisque là aussi, que n'a-t-on pas entendu sur les supposés parts de marché des réseaux de mandataires ? Je pense que les détracteurs du modèle, sont d'accord sur le fait que le travail est utile, qu'il est rigoureux et qu'enfin on a une mesure fine, alors qu'on peut remettre en question à la marge, mais je pense que sur notamment le 20% de parts de marché du marché intermédiaire, c'est un chiffre sur lequel tous les professionnels s'accordent aujourd'hui. Quand je rappelle, 140 000 transactions faites par les 90 réseaux de mandataires et donc par leurs 40 000 conseillers indépendants affiliés sur les 700 000 transactions qui est au fond la moyenne des transactions intermédiaires sur les années 2019-2020 et donc sûrement aussi 2021. Et puis la troisième partie, peut-être la plus importante, celle avec laquelle j'ai mis en tout cas le plus d'énergie et qui m'a plus intéressé en tant qu'auteur, c'est d'essayer de montrer en quoi, au-delà des caricatures, le mode de fonctionnement des réseaux mandataires correspondait assez bien aux valeurs montantes de la société. Et il faut en redonner le crédit aux fondateurs de ces réseaux, qui à 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ont eu ces idées-là, et aussi à l'évolution de la société qui fait que les gens ont un désir d'indépendance comme ils n'ont jamais eu auparavant. C'est pas moi, c'est pas IAD, c'est pas Safety qui a inventé ce désir d'indépendance, il est très fort. Les gens ont un désir, une volonté d'organisation beaucoup plus horizontale que par le passé. Là aussi, je pense d'ailleurs que même dans des organisations plus traditionnelles, vous faites aussi face à des désirs, parfois des plus jeunes, parfois des moins jeunes, d'une organisation plus agile, plus horizontale et un peu moins verticale comme on l'avait avant. Là aussi, ce n'est pas les réseaux, ce n'est pas moi, c'est plutôt la société qui évolue comme ça. Et donc cette troisième partie, elle essaie de montrer en quoi, encore une fois, il y a, à mon avis, une adéquation entre les valeurs montantes de la société, qu'on voit dans l'immobilier, qu'on voit dans d'autres secteurs, et le mode de fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui des réseaux mandataires. Et donc, fort de ce constat-là, je fais une hypothèse, c'est que ces réseaux vont continuer à se développer, à moins effectivement que les valeurs de la société changent et qu'on rentre dans un monde totalement différent. Je ne fais pas ce pari-là, et donc c'est pour ça que le rapport se veut assez optimiste sur l'évolution, même s'il rappelle à plusieurs endroits et à plusieurs moments la complémentarité, on en parlera avec les modèles traditionnels et avec d'autres modèles émergents. Mais l'objectif, c'était ça, mesurer, comprendre, sortir parfois des caricatures, et puis, j'allais dire, apporter enfin, je pense, hein, une analyse objective de ce qui est aujourd'hui la réalité de ces réseaux de mandataires.
Clément Del Pérou, il était nécessaire, ce rapport ?
Oui, je pense que c'était utile et important, donc nécessaire, d'avoir pour la première fois rassemblé dans un document qui soit structuré, étayé, des données de marché qui soulignent les deux éléments dont Vincent parlait à l'instant, c'est-à-dire à la fois le poids économique, parce que sont des réseaux et un mode d'activité en fait qui a cru très vite dans une très courte période de temps, donc les idées reçues qui pouvaient encore exister sur la part ou le rôle des mandataires dans le marché immobilier il y a encore 4 ou 5 ans, elles ont évolué très très vite et encore plus vite à l'occasion des 12 ou des 12 mois de crise sanitaire qu'on vient d'avoir, dans lequel il y a beaucoup de choses autour des mouvements sociétaux que Vincent a évoqué à l'instant, qui sont cristallisés et qui ont encore permis un niveau d'accélération supérieur. Donc ça paraît pour nous en effet nécessaire de mettre des chiffres, de mettre des mots et d'analyser ce qui est effectivement en termes de place prise, de taux de croissance, alors pas seulement d'un ou deux réseaux, mais de tous les réseaux. On suit évidemment, nous, avec attention, la croissance de cette forme d'intermédiation et de tous ces acteurs. Et un des faits marquants pour moi, qui me semble être un bon écho à la partie significative du rapport qui évoque, on va dire, l'inscription du développement du métier de mandataire dans l'immobilier dans des tendances sociétales lourdes, c'est que tous ces réseaux croissent. Et je pense que ça veut dire quelque chose et que ça méritait d'être synthétisé et mis en avant.
Donc finalement, vous êtes plutôt d'accord avec le pari qui est fait par Vincent Pavanello, l'optimisme pour les mois à venir ?
Alors oui, optimisme fort, mais qui s'appuie sur les mois à venir, mais qui s'appuie quand même sur l'analyse empirique ou la constatation du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être si on parle en termes de chiffres, un réseau comme IAD, qui pour des raisons évidentes est celui que je connais le mieux, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tous nos petits camarades, on est réunis avec une partie avec certains de ces réseaux au sein du collège des mandataires au sein de l'UNIS, mais même les autres aussi se développent. Mais en tout cas, côté IAD, la croissance cette année sera encore supérieure à 30% dans un marché qui a, lui, pas connu cette évolution-là. Donc, il n'y a pas une forme de supériorité ou d'arbitrage entre un modèle qui serait supérieur à un autre, mais en tout cas, le modèle qui est proposé aux clients finaux, les acheteurs et les vendeurs, puisqu'à la fin, ce sont bien eux les juges de paix, eux qui vont choisir avec qui ils veulent travailler, comment ils veulent travailler, comment ils veulent avancer. En tout cas, du côté d'IAD, cette croissance, elle a même accéléré par rapport aux deux, trois années précédentes. Et il y a quelques jours maintenant, on a pu se féliciter d'atteindre le 13e conseiller IAD en France, et donc, ce qui consolide notre leadership sur cet item, c'est-à-dire la force d'intermédiation déployée sur le territoire à travers nos entrepreneurs indépendants.
Daniel Dubrac, c'est le rapport dont la profession avait besoin, c'est pédagogie, le maître mot, est-ce qu'on peut dire ça ?
C'est pédagogique, c'est éclairant, et je trouve que c'est explicite, et c'est surtout pas ni partisan, ni voilà, il n'y a pas de notion de « on prend parti », etc. Il y a quand même 80 000 mandataires qui sont en France, et il y en a la moitié dans les réseaux de mandataires, sur les 145 réseaux de mandataires qui existent. Je dirais que UNIS, et merci de nous avoir permis de faire la préface de ce rapport, c'est pas le énième rapport. C'est le premier rapport sur le sujet. Il faut quand même le souligner. Et je pense que la profession en avait besoin. Et nous, on a, avec la chance des trois réseaux de mandataires, dont un est présent ce soir, on a la chance d'avoir à peu près 23 000 mandataires au sein de notre syndicat. Donc on peut dire qu'on est la première structure syndicale qui représente les réseaux de mandataires indépendants. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parlait de 20% du marché tout à l'heure dans la transaction pour les mandataires, les réseaux de mandataires indépendants. Il y en a 13% qui viennent de ces trois réseaux-là. Bon. Donc c'est un rapport qui est vraiment explicite et c'était important de l'avoir parce que d'abord, on se regarde toujours un petit peu en difficulté quand un nouveau modèle économique arrive. Et donc, du coup, l'explication, on pose le problème, c'est très factuel. On regarde ce que c'est qu'une agence classique, on regarde ce que c'est qu'un travailleur indépendant à travers les réseaux de mandataires indépendants. Je trouve que c'était important qu'on pose un peu les faits, les chiffres, et puis qu'on regarde cette évolution. Et c'est le plus important pour moi aussi, qui est une évolution sociétale. Il y a le modèle économique, il y a l'évolution sectorielle, mais il y a aussi cette évolution sociétale dont avait besoin les travailleurs qui sont devenus indépendants par rapport aux salariés et dont avaient besoin aussi les clients pour peut-être une meilleure proximité, sachant qu'on est tous, que ce soit agence classique ou que ce soit réseau de mandataires indépendants, on est tous sur la recherche de la plus-value apportée dans le cadre d'une transaction. On veut faire plaisir aux vendeurs et on veut faire plaisir évidemment à l'acquéreur. Et donc c'est ça qui compte finalement. Il n'y a pas eu de perte de part de marché à cause de l'arrivée des mandataires. Alors nous, UNIS a été visionnaire, et merci aux précédents gouvernants d'UNIS, parce que dès 2016, on a accueilli les réseaux de mandataires au sein de nos adhérents.
Stéphane Street, c'est vrai, in fine, c'est le client qui décide. À la fin de tout ce processus mandataire immobilier ou réseau de franchise, c'est le client qui décide.
La très bonne nouvelle, c'est que le client, il a le choix aujourd'hui entre le PAP, où je me débrouille tout seul et je n'en ai pas besoin, j'ai mon notaire, j'ai mon banquier, j'ai juste besoin d'avoir une information sur quelque chose qui est à vendre, je ferai ma négociation seul. Ensuite, on a les réseaux d'agents mandataires, dont les dirigeants le disent explicitement dans leur communication. C'est on fait une vente ou deux, on est boucher agent immobilier, on est coach sportif agent immobilier, accessoirement. Donc c'est une offre, et ils offrent un service à mon sens dégradé. Et aujourd'hui, mais par contre, c'est une offre qui est présente sur le marché. Puis ensuite, vous avez des agents immobiliers, et ensuite des agents immobiliers peut-être plus, avec des services associés. L'évolution du marché, je pense, à mon sens, qu'elle ira vers plus d'accompagnement au lieu d'un accompagnement dégradé. Je trouve, moi, pour le coup, puisque vous ne me posez pas la question, le rapport orienté, même s'il est, à mon sens, nécessaire, et je veux dire, en même temps que je dis ça, je le trouve très orienté, je n'ai jamais été hostile au modèle d'agent mandataire. Enfin, je n'ai pas de problème avec les agents ou les réseaux d'agents mandataires. Ça ne me pose aucune question. On n'a jamais gagné autant d'argent en tant qu'agent immobilier en franchise. On n'a jamais autant développé d'agences immobilières. Jamais autant de gens nous ont rejoints aujourd'hui. On n'a jamais fait évoluer le chiffre d'affaires par collaborateur et le chiffre d'affaires par agence que ces 10 dernières années, années où sont arrivés des réseaux mandataires de façon extrêmement forte. La raison pour laquelle ça arrive, c'est pas parce qu'un modèle est meilleur qu'un autre, c'est qu'on est sur un marché insolent. Il faut le dire, on est un marché insolent. On a fait 1 100 000 transactions en 2019. On pensait dégrader le marché. Regardez comment s'est comporté 2020 malgré le Covid. 2021 risque d'être encore meilleur que 2019. Enfin, on est sur un marché qui autorise tous les modèles. Et je comprends tout à fait que les gens veulent aller dessus. À mon sens, la question qui doit être posée pour demain, puisque Vincent, on en parlait tout à l'heure, et demain, qu'est-ce que ça deviendra ? Je vous rappelle quand même juste la crise des subprimes. La crise des subprimes, elle a impacté, et pareil, Daniel, vous le savez, 30% de la profession. On a une contraction de marché en termes de volume. 30% de la profession est partie au tas. Ça, aujourd'hui, c'est... Et qu'est-ce qui est parti au tas ? Aujourd'hui, les réseaux, nous l'avions constaté, déjà beaucoup d'indépendants. J'étais dans un autre réseau à l'époque. Nous avions perdu seulement 4% de nos agences. Et toutes les agences que nous avions perdues étaient des succursales, des petits points de vente. Donc aujourd'hui, la question est posée. Le jour où il y aura une contraction de marché, parce qu'elle devra arriver, cette contraction de marché, qui prendra d'abord ? Les structures avec un ancrage local fort, d'accord ? Ou les gens qui font une ou deux ventes à l'année. J'ai peur que ce soit plutôt les seconds. Et donc, si la question est posée, je trouve, un rapport orienté, deux, un modèle, à mon sens, faible, mais qui croit énormément sur un marché porteur, et je crois demain à l'ancrage local de l'agence immobilière.
Vincent Pavanello, réponse, puis Clément Delpierre.
Moi, j'ai 27 ans. J'ai pas souvenir d'avoir lu un rapport qui n'était pas orienté. Par définition, oui. Prendre la plume, c'est au fond, quand même, avoir un d'accord. Focus. Moi, mon focus, ce n'est pas la transaction immobilière, c'est le modèle des réseaux de mandataires. Et la question qui m'a été posée en tant que rédacteur, c'est pourquoi ils sont passés de 3% à 20% du chiffre d'affaires, enfin de part de marché. Et donc, j'essaie plutôt de trouver les raisons qui expliquent cette hausse que de trouver, que de m'intéresser à d'autres points. Et donc, effectivement.
Vous avez bien expliqué l'évolution aujourd'hui, sociétal. Moi, je suis voilà. totalement d'accord avec vous.
Donc, c'est pas être orienté, mais
oui,
que
oui,
dire
je
ça.
Suis d'accord.
C'est la réalité. C'est pour ça que je trouve que oui, orienté, en tout cas, le point d'analyse et de focus, c'est effectivement les réseaux. Mais, cher Stéphane, je suis déçu parce que sur la question du 1 ou 2 ventes par an, je pense avoir abordé assez largement et je n'ai évité aucun sujet. Et je peux même dire à cette antenne très librement, c'était pas avec Clément que je discutais, c'était avec Roland de chez Yadé, que même sur certains sujets, les réseaux de mandataires étaient plutôt sur les freins. Je prends un sujet qui sera abordé, j'imagine, plus tard, la comparaison entre Uber et les réseaux de mandataires. Et j'ai à un moment eu cette discussion de vérité avec les réseaux de leur dire, moi, je ne fais pas un rapport de 70 pages sans répondre à la principale objection qui vous est faite. Donc, on va y aller et on va prendre les points par point. Et donc, une des autres objections, c'est effectivement le nombre de ventes par an. Vous ne pouvez pas dire une à ou deux ventes par an. Là, je pense que c'est pas proche
alors,
de la...
Vous faites un calcul simple. Vous prenez le chiffre d'affaires produit par les agences, par les réseaux d'agents mandataires, et vous le divisez par le nombre de collaborateurs publiés.
J'ai même fait un calcul encore plus simple. J'ai pris le nombre de transactions, 140 000. J'ai divisé par le nombre de mandataires, à ce jour, 40 000.
Mais faites plutôt leurs chiffres, c'est plus clair. C'est leur
On arrivera à la même conclusion en partant du chiffre d'affaires divisé par la commission moyenne. Là aussi, je fais cette analyse, à mon avis.
Non, bon. Parce qu'il y en a qui sont à 30 000 de moyenne. Il y a des gens qui travaillent bien. Et il y a des gens qui travaillent mal, qui sont dans le volume.
C'est vrai aussi dans les agences traditionnelles. Encore une fois, pour être un peu rigoureux sur le calcul, ce que je propose comme hypothèse, on ne peut pas dire 1 à 2. Si on prend 140 000 et qu'on divise par 40 000, on a 3,5 et quelques. OK, c'est le point de départ. Moi, ce que je pense, c'est que ce chiffre-là, il faut l'affiner. On en parlait un petit peu avant. Il faut le retraiter. D'abord, sur les 40 000, il y en a plein qui viennent d'arriver. Ils ne sont pas encore opérants. Comme quand vous recrutez des gens dans vos agences, OK, ils ne sont pas opérants la première semaine. Ou alors, c'est que vous avez un très beau modèle. Donc, je retraite un peu ça. J'arrive, je crois, à 30 et quelques mille. Sur ce qui reste là, je dis aussi qu'il y en a un certain nombre qui sont à mi-temps. Vous avez raison. Et ce n'est pas une honte d'être à mi-temps. On a le droit d'avoir plusieurs métiers.
C'est très bien.
Et donc, je ramène ça sur une base ETP. Qui est la bonne base. Parce qu'on ne peut pas mettre tout dans le même plat et puis avoir une analyse rigoureuse. Donc moi, je ramène sur une base ETP. Et sur la base ETP, le 3,5, il devient 5 ou 6. Donc on peut dire que ce n'est pas assez, mais on ne peut pas dire que c'est 1 ou 2.
Vous faites aujourd'hui des... alors je veux bien qu'on prenne des grands volumes. Vous avez déjà pris la part de marché des pros. Prenez la part de marché global. Quand moi, je parle de ma part de marché, je ne parle pas de ma part de marché des pros. Je fais 32 000 transactions aujourd'hui. Le réseau fait 32 000 transactions aujourd'hui. Il y a 1 million de transactions. On fait à peu près 3% de part de marché. Je n'essaye pas de grossir ma part de marché en la ramenant avec juste la part des pros. Ça, c'est... Donc on peut faire des choses macro, mais la réalité, c'est que demander à IAD les chiffres publiés versus le nombre de collaborateurs divisé par le nombre, c'est exactement le chiffre moyen. Moi, c'est ce qui est sur mon bureau de façon chaude tous les jours. Le chiffre d'affaires par collaborateur, le chiffre d'agence, le chiffre moyen des agences. Ça m'intéresse parce que c'est avec ça qu'ils vivent et c'est la promesse que nous leur faisons. Aujourd'hui, je pense que si jamais les marchés se contractent, quelqu'un qui fait une ou deux, ou même cinq ventes dans l'année.
C'est la même chose.
Allez, cinq, allez-y. C'est quelqu'un qui n'est pas pro, qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas les mécanismes. Et donc, c'est le professionnalisme plutôt qui est en jeu. Moi, je défends les bons, et j'ai les mandataires. Il y a des très bons, ils arrivent souvent de chez nous, d'ailleurs. Il y a des très, très bons, et global. Mais regardez dans les CV des très bons, les mecs qui font 200, 300 000 balles, vous allez voir. Souvent, vous verrez Orpi, Century 21, ERA, Guillaume.
On va en revenir. Pour par point, tout ça.
C'est celui-ci, à mon sens.
Clément Delpirou. Une réaction sur ce qui vient d'être dit. Puis aussi, j'aimerais vous poser une petite question sur cette comparaison finalement entre l'arrivée d'Uber et les taxis traditionnels. Est-ce qu'on peut comparer ces situations avec l'agent immobilier plus classique, entre guillemets, et le réseau de mandataires? Qu'est-ce que, voilà, quelques éléments de réponse sur le sujet.
Oui, avec grand plaisir. Donc, sur les éléments qui viennent en effet d'être discutés, parce que le... Il y a eu un premier débat qui portait sur les aspects quantitatifs. Hein, donc effectivement, nous, une fois que les conseillers ou les entrepreneurs IAD sont formés, ils tournent entre 6 et 7 transactions. Et c'est vrai, il y en a un gros montant qui vient d'arriver relativement récemment. Et c'est une bonne transition vers mon deuxième commentaire. On parlait de boucher agent immobilier, si j'ai bien compris. Ce qui me paraît un raccourci à la fois... pas très flatteur, mais c'est pas très grave, mais surtout pas très juste, qui tient au fait que, et là encore, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, mais beaucoup de réseaux de mandataires, et beaucoup de réseaux classiques d'ailleurs, hein, si vous regardez les dernières communications Century 21 ou Orpi, par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on va vous former, d'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre des gens, et chez IAD, c'est tout à fait public, donc on n'a aucun problème avec ça, et on a environ 80% de nos nouveaux conseillers qui ne viennent pas du marché de l'immobilier. Et donc, on va prendre du temps, à la fois en présentiel quand il n'y a pas de virus, et à la fois en distanciel pour compléter la formation, pendant un ensemble de mois. Et évidemment, pendant ces mois-là, ils ne vont pas être les plus performants du marché en un claquement de doigts, sinon il se passerait quelque chose de magique. Mais on va les former et on va leur apprendre un métier. On va leur apprendre à réussir. Et une fois qu'ils sont lancés là-dedans, effectivement, ben là, ils arrivent. Certes, pas sur des 12, 15, 18 transactions, parce qu'on a, qui sont peut-être des choses qu'on peut voir, ou qu'on peut voir clamer dans certains réseaux, plutôt entre 6 et 7, mais qui font en sorte que, par rapport à leurs objectifs, certains font plus, certains font moins, on n'est pas dans une recherche absolue d'avoir les plus gros producteurs. Et donc cet équilibre-là, et avec un taux de départ chez nous qui diminue d'année en année, la statistique relativement incroyable que 14% de nos conseillers sont d'anciens clients, ça montre bien qu'il y a une adéquation entre la qualité du service qu'ils apportent, ce que les vendeurs et les acheteurs y trouvent. Sinon, on ne serait pas sur, j'entendais parler de 30 000 transactions, c'est pas un concours quantitatif ou de mensuration, mais chez IAD, on va être autour de 55 000 à peu près transactions cette année. Et donc, ce n'est pas de la poudre aux yeux et des bouchées à mon agent immobilier, sinon ils n'arriveraient pas à mener à bien dans de très bonnes conditions de satisfaction qui sont étayées par des tiers indépendants. Ils n'arriveraient pas à satisfaire, à rendre heureux et à même à convaincre de nous rejoindre autant d'acheteurs et de vendeurs. Et je trouve, le troisième élément, et je répondrai ensuite à votre question sur les plateformes et sur Uber, qu'au contraire, et on l'a vu pendant le Covid, dans les moments difficiles et dans les moments de crise, le fait que nous soyons sur un modèle économique léger, qui est un modèle économique encore pas supérieur, différent, mais dans lequel il n'y a pas d'agence, ça rend nos entrepreneurs et ça rend IAD et puis les autres réseaux de mandataires d'ailleurs beaucoup plus aptes à survivre à une baisse de leurs revenus, puisque leur base de coûts fixes va être beaucoup moins importante. Et donc, on l'a bien vu d'ailleurs, le Covid, ou les premiers mois de Covid, où les visites ont été interdites, où il y a beaucoup d'interrogations, elles ont été très porteuses. En termes d'activité pour les réseaux de mandataires, elles ont été très porteuses dans la mesure où, étant des entrepreneurs qui travaillent à distance avec l'appui d'une série d'outils technologiques qui leur permettent de rendre un service de grande qualité, ils font ça depuis 13 ans, donc ça les a finalement pas déstabilisés. Donc moi je crois qu'au contraire, si le marché venait à devenir plus difficile, la structure légère et l'esprit d'entrepreneuriat et la solidarité et la communauté qui les anime les rendraient plus apte à survivre. Après, je ne suis pas devin, on peut en effet chacun avoir sa vision du futur. Ensuite, pour revenir sur votre question, les différences entre les plateformes dont vous parlez, donc un livreur Deliveroo ou un chauffeur Uber et un mandataire immobilier, elles sont extrêmement importantes et j'évoquerai sans tomber dans la technicité ou le juridique, celles qui montrent qu'on est dans deux univers différents. Qu'est-ce qu'apprécie le législateur dans cette logique de plateforme? Il apprécie, est-ce que ces gens-là, on leur donne des instructions? Ah non, pas du tout. Ils travaillent d'où ils veulent, ça c'est un des aspects importants de notre modèle, de la manière dont ils veulent et avec le niveau d'intensité qu'ils choisissent. Ça reboucle un peu sur le débat précédent. Est-ce qu'ils ont un uniforme? Ils n'ont pas d'uniforme. Est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés si on estime qu'on n'est pas d'accord avec eux ou qu'ils font mal leur travail? Ils peuvent pas être sanctionnés, etc., etc. Donc tous ces aspects-là font que ce sont de véritables entrepreneurs et pas des gens qui seraient pilotés, micro-managés, comme ça peut être parfois malheureusement le cas dans certaines situations de plateforme.
Donc finalement, on est plus vers un réseau free pour la téléphonie mobile que finalement sur un réseau Uber pour...
Oui, alors free dans le sens où effectivement on apporte une rupture à travers la technologie et on apporte un autre type de service qui séduit une part significative des clients potentiels. Sur cette partie-là de la métaphore, je suis assez d'accord. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'effectivement, par rapport à ces jobs qui sont difficiles en termes de rémunération et sur lesquels les gens peuvent peiner à vivre, nous, on a la satisfaction de voir que sur plus de 13 000 conseillers aujourd'hui et donc plus de 20 000 historiquement qui sont rentrés dans le réseau depuis 13 ans, statistiquement, on peut montrer qu'au bout de 3 ans, vous allez gagner autour de 40 000 euros, certains plus, certains moins, puis autour de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, votre rémunération, elle va augmenter, et c'est pas 3 super performeurs dans un coin, c'est de la réalité empirique et statistique sur des centaines ou des milliers de mandataires, et pour le coup, non pas garantie, parce que c'est pas garanti, mais en tout cas, cette véritable capacité sur des volumes importants à faire réussir, faire changer de vie, transformer en professionnel de l'immobilier accompli des milliers de Français et des milliers de Françaises. Ça aussi, on est loin du job qui rapporte quelques pièces et sur lequel on a du mal à vivre, puisque c'est une vraie liberté financière qu'ils arrivent à conquérir à travers le temps.
Stéphane Fritz, une réaction peut-être, et puis Daniel Dubrac après.
une réaction sur le digital, souvent il est posé en modèle économique nouveau. Déjà, ce n'est pas un modèle économique nouveau, c'est assez ancien. Et comme digitalisé. Mais digitalisé, il n'y a pas plus digitalisé qu'une agence immobilière, et notamment en franchise. Je rappelle juste que chez Guy Hoquet, ça fait 4 ans qu'on est en signature électronique à 100% de toutes les agences et qu'on a 3/4 du réseau qui est équipé de caméras Matterport aujourd'hui, capable de faire de la visite virtuelle. Je vous invite à aller sur le site guyhoquet.com. Vous ne verrez pas ça chez un mandataire, parce que déjà, il n'a pas capacité et moyens à se payer ces outils-là. Je trouve que les réseaux aujourd'hui organisés, parce qu'on a des moyens, c'est vrai, et qu'on est plus anciens, avons aujourd'hui une avance digitale. Ce n'est pas juste de dire « je travaille à partir de chez moi avec mon ordinateur » qui fait de moi quelqu'un de digitalisé, quoi. C'est pas ça, je suis pas digitalisé, c'est pas ubérisé, ce qui n'a pas été le cas d'Uber. Uber, pour le coup, c'est une application qui permet de payer avec sa carte, de commander, de retracer. Ça a vraiment amélioré le parcours client. Or, aujourd'hui, l'agent mandataire, il vient pas améliorer le parcours client. D'accord ? Il vient se poser sur un marché fast, c'est ce qu'on disait. Et encore une fois, je le redis, je suis pas du tout contre ce modèle. Je pense qu'il doit coexister avec les autres et que chaque Français a la chance chez nous de pouvoir trouver du PAP à une agence de luxe, tous les modèles, et à lui de choisir et à nous de faire la différence. Et encore une fois, quand je dis j'ai 32 000 transactions, mais que c'est avec 2 200 collaborateurs producteurs, hein, nous qu'on fait 13 000 par 55 000, c'est pas du tout la même. Donc aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. Il y a juste, je pense que l'avenir demain, c'est comment on forme les gens et quels sont les bons de demain. C'est ça le vrai sujet pour moi. C'est comment on forme et on reforme encore nos collaborateurs pour qu'en face, déjà l'image de l'agent immobilier en règle générale, elle s'améliore pour qu'on mette en face des gens, pas des gens. Et agent immobilier boucher, c'est pas un mauvais mot dans ma bouche. J'aime autant les agents immobiliers que les bouchers, pour que des gens, on en voit face à des clients, des gens professionnels capables de parler de financement, de pathologie du bâtiment, du quartier. C'est ça le vrai sujet. Et on a aussi à se nettoyer dans les réseaux, hein, de la même manière.
Daniel Dubrac, l'avenir, le maître mot.
L'avenir, écoutez, l'accroissement des réseaux de mandataires en termes de chiffre d'affaires, il est quand même là. C'est quand même exponentiel. Et ça correspond à quoi ? Il y a une satisfaction du client quand même. Et le mode opératoire est le même. On est là quand même pour donner...
Il y a surtout un marché fast, Daniel. Un marché fast, insolent, je vous redis, qui autorise tous les modèles.
Une vente, c'est toujours une vente. La satisfaction d'un client, c'est quand même tout un art d'être commercial, d'être formé.
Tout le monde ne demande pas la même chose.
Il ne faut pas avoir de la défiance comme ça. Ils existent depuis combien de temps ? Depuis 2008, ils ont fait leurs preuves. Ils sont partout. Ils sont sur tous les territoires. Ils s'occupent de n'importe quel type de produits, que ce soit les entrepôts, les maisons, etc. Je crois qu'on est plutôt dans un phénomène sociétal de partage du temps de travail. Vous l'avez bien dit, Vincent, vous avez parlé de l'adaptation au nouveau code du travail. Et ça, c'est important, parce que du coup, ceux qui vont travailler et qui vont avoir une activité peut-être même partielle, ils vont bien le faire grâce à l'apport de ces réseaux de mandataires sur la formation, le juridique, grâce aussi à l'apport que ces réseaux de mandataires vont avoir à travers des syndicats professionnels comme le nôtre. Ça va correspondre à une forme de quête de sens d'une personne pour avoir un emploi qui est peut-être choisi aussi, ou un temps partiel qui est choisi. Bien sûr, il y a du temps partiel qui est subi, on est bien d'accord. On est dans des phénomènes. Ce qui est intéressant, c'est que le numérique, ce n'est pas nouveau, mais c'est une innovation de rupture par rapport à d'autres modèles. Et donc, on est aujourd'hui, en plus, avec le confinement sur le télétravail, l'autonomie. On voit bien, quand on est chef d'entreprise et quand on est manager et que tout le monde est en télétravail, on se transforme en manager horizontal. On n'est plus du tout dans les mêmes formes de hiérarchie. Donc, je pense que c'est important de regarder le combat. Il est ailleurs, le combat. Il est pour s'approprier les parts de marché que nous n'avons pas. Alors certains disent que le particulier, c'est 65, c'est les professionnels 65%, voire 70%, et donc il reste encore 30%. Eh bien, c'est peut-être là qu'est notre combat. Le combat, il est peut-être quand on a un projet climat et résilience, peut-être de se battre pour que les locations de classe E ne soient plus interdites à la location en 2034. Donc il est là. Et puis de toute façon, c'est comme l'agence classique et le mandataire sans bureau, c'est deux doigts de la même main. Les consommateurs y trouvent leur compte, puisqu'autrement, on n'aurait pas ce chiffre d'affaires qui est là. Et je crois qu'en plus, on est complémentaires parce qu'on partage des choses ensemble. Bien ici, les agences classiques y vont, les réseaux de mandataires indépendants y vont. AMEPI, un fichier partagé, on y est aussi, etc. Donc, malgré tout, je pense que ces deux modèles-là sont complémentaires et iront vers peut-être un meilleur professionnalisme, c'est possible. La formation est là, la réglementation est là, la veille juridique des syndicats professionnels est là, et voilà.
Alors, moi, j'aimerais bien vous répondre sur la défiance. Je n'ai aucune défiance. Encore une fois, je vous le redis, on n'a jamais...
Vous avez utilisé des mots un peu...
Parce qu'aujourd'hui, je m'inscris en faux contre le modèle, parce que je pense que ce n'est pas un modèle d'avenir. Je vous le dis, je le pense sincèrement. Sauf à penser à ce que les modèles forment les collaborateurs de façon extrêmement forte. Et je vais vous expliquer clairement ce qu'on fait. Deux choses, par contre. Un, déjà, il n'y a aucune défiance. Je vous le dis encore, on n'a jamais autant produit, jamais autant... On ne s'est jamais autant développé que depuis qu'ils sont là. Il y a évidemment une complémentarité, parce que ce qui nous intéresse, c'est comment on sert, nous, les Français. Et aujourd'hui, le Français, il a le choix. Il n'a pas le choix d'aller que dans une agence et de se faire tondre. Ce n'est pas le sujet. C'est qu'il a des services, il a la possibilité d'une multitude d'agences. Il y a une hyper concurrence dans ce métier-là, de modèles, d'agences, de marques. Et l'idée, c'est quand même de trouver le bon. Donc, nous, notre travail à nous, c'est de construire le bon. Je pense que quand on fait peu de ventes, même si je suis complètement d'accord avec vous, ça répond à une attente sociétale de gens qui ont juste envie de le faire un peu. C'est juste que le métier se complexifie, la transaction se complexifie, se réglemente de plus en plus. Maintenant, la rénovation énergétique que nous embarquons avec Guy-Hockey arrive sur le plateau, et c'est par la formation qu'on pourra former sur la pathologie du bâtiment, pour pas qu'il y ait un risque pour l'acheteur ou pour le vendeur, sur le financement, parce que je pense qu'on a besoin de ça, sur les assurances, sur la gestion locative. Donc c'est sur le patrimonial, éventuellement, sur la rénovation énergétique. Donc tout cet espace-là qui nécessite que le collaborateur de plus en plus soit formé, et pour qu'aussi il ait la compétence et le professionnalisme, il faut qu'il fasse plus de ventes qu'une ou deux ventes. Je pense que ça répond pleinement aujourd'hui sociétalement à une attente, à une demande. C'est aussi, il faut quand même se le dire, sur un marché extrêmement faste qui l'autorise. Moi, la question est posée, puisque vous me posez la question, demain, qu'est-ce que ce sera? Dans un marché contracté, on en rediscutera. On en rediscutera à ce moment-là. C'est pour ça qu'à mon sens, je pense que ça répond pleinement à ce que vous dites, mais ça n'est pas un modèle d'avenir.
Clément Delpirou, sur le parcours de formation, déjà, chez IAD.
On l'a touché du doigt rapidement. Le parcours de formation chez IAD, il s'inscrit avec une double démarche. La première, c'est depuis maintenant 10 ans, la structuration d'une université à la fois présentielle et en ligne, avec tout un programme dans toute la phase d'intégration des nouveaux conseillers, qui est extrêmement approfondie et qui est, pour m'y être intéressé de près là depuis un an, vraiment parmi les plus complètes du marché. Je ne vais pas chercher à dire que c'est mieux ou numéro un, c'est pas le sujet, mais en tout cas qui est effectivement très complète sur tous les aspects, et vous aviez raison de souligner à l'instant, l'aspect juridique, les aspects financement, il y a différents types de ventes qui ne sont pas les mêmes. Et puis la logique effectivement de parrainage qui est au sein du réseau et qui permet de créer de façon hyper locale, ça c'est un point sur lequel je vais revenir juste derrière, de façon hyper locale, parce qu'à 13 000 conseillers, on a quand même des gens qui connaissent parfaitement bien là où ils sont installés à l'intérieur du territoire français, mais de façon hyper locale, d'être capable de connaître toutes les spécificités de là où ils travaillent, appuyés par leur marraine ou leur parrain. Et donc, le principe de travail commun et ce concept de parrainage sont pour nous vraiment les deux leviers qui permettent très largement à l'ensemble de nos conseillers de se former. Donc ça, c'est la formation initiale. Et puis ensuite, évidemment, et la réglementation fait le travail aujourd'hui vis-à-vis des obligations de formation récurrentes. Là encore, on fait même beaucoup plus que les appliquer, puisque en moyenne, les conseillers réseau IAD se forment à hauteur de 150% de ce que leur demande le législateur. Et on partage tout à fait ce qui était évoqué par Stéphane Triss à l'instant, c'est-à-dire la volonté, au fur et à mesure du temps, de former le plus possible à tous les nouveaux enjeux. Et là encore, la société fait qu'il y a aussi des nouveaux enjeux sur le marché, des nouvelles attentes. On parlait d'environnement tout à l'heure, le système de financement évolue, donc effectivement faire en sorte que l'ensemble des équipes sur le terrain soient les plus formées possibles, c'est extrêmement important, et on s'y attache, comme vous l'avez entendu dans les chiffres à l'instant.
Alors moi j'aimerais évoquer un nouvel enjeu, parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, c'est passionnant comme discussion. J'aimerais évoquer l'enjeu de cette crise du Covid. On sait, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, que ce soit des restaurateurs, des guides touristiques, des personnes qui travaillent dans l'événementiel. Est-ce que là, ici, aujourd'hui, il y a un enjeu ? Vincent Pavanello.
Je réagis juste sur ce que disait Stéphane. Stéphane, il dit j'ai pas de défiance, mais ils sont nuls, ils font une transaction entre deux morceaux de viande qu'ils ont coupé. Bon, faut pas, je pense que je vous trouve un poil sévère, je vous trouve plus modéré sur la formation. Et d'ailleurs, je me dis, petite parenthèse, que ça doit pas être triste dans le groupe Arche, puisque vous coexistez avec un réseau de mandataires, le Bon Agent, qui a quand même plusieurs centaines de mandataires, donc ça va être des débats intenses comme
moins
on les a là.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Non, mais c'est à moitié une plaisanterie. Par contre, la question est sérieuse sur celle de la crise. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un enjeu d'émancipation, ce sujet-là. Et au fond, la vertu pour moi des IAD, des Safety, des Capifrance et de tout, c'est ils ouvrent le jeu. Comme Uber en son temps. Et c'est pour ça que moi, la comparaison, pour une part, je l'assume tout à fait. Qui donnait du boulot à ces gars de banlieue qui s'en trouvaient chauffeurs Uber? Que celui qui a une meilleure solution, il la trouve. C'est exactement ce qu'avait dit Macron en 2016. Il avait dit pour plein de gens dans le pays, c'est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Et que si quelqu'un d'autre a une autre idée pour trouver du boulot à ces gens-là, bah, qu'il la propose et qu'il ne se gêne pas. Franchement, c'est ça le truc de Macron. Je ne dis pas qu'on est dans la même réalité. Il y a d'ailleurs une différence qui n'a pas été évoquée, qui est à mon avis importante, entre Uber et le modèle des réseaux mandataires, c'est que les réseaux n'apportent pas de clients à leur mandataire. Le mandataire, comme c'était dit, s'il n'est pas bon et il n'a pas de client, bah, il fait autre chose. Dans Uber, il y avait une forme de dépendance vis-à-vis de le réseau sur la partie commerciale. Donc, c'est une grosse différence. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est un enjeu d'émancipation. La vertu de ces réseaux, c'est d'ouvrir le jeu. Est-ce que tout le monde va réussir? Non. Est-ce qu'il y a eu parfois des crises de croissance dans ces boîtes-là? Par exemple, une boîte qui grossissait plus vite que le système de formation? Je pense qu'on peut le constater et on peut être à l'aise sur ce sujet. Comme toute boîte qui croît très vite, évidemment, les réseaux de mandataires se structurent au fur et à mesure, rattrapent parfois leur retard sur un ou deux sujets. Sur le digital, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je suis en partie d'accord avec vous et je pense que le plus gros est devant nous. Pour les réseaux de mandataires, pour les agences aussi traditionnelles, je pense qu'il y a encore vraiment plein de choses. On pourrait parler des métiers de l'ADB qui sont aussi très impactés par le digital. Donc, l'idée n'est pas de dire qu'il y a les réseaux de mandataires qui sont des boîtes tech où il n'y aurait plus rien à changer et puis les réseaux, oh là là, c'est une horreur. Moi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais écrit, j'ai jamais pensé. Donc, au moins, ça c'est clair. Donc, la question de la crise, pour moi, c'est de dire. Petit 1, ça répond pas à tous les besoins. Il y a des gens qui réussissent pas. Au bout d'un an, ils arrêtent les réseaux. C'est clair, c'est net, ça sert à rien de le nier. Deuxièmement, c'est une voie comme une autre. C'est une voie comme une autre. Et certains vont s'y retrouver, d'autres vont pas s'y retrouver. Et la troisième point, pour l'après-crise, j'ai bien aimé le point de Clément sur les frais fixes, il a raison. On verra comment vont résister aussi les agences traditionnelles et comment, quel marché on a après. Et pour moi, c'est là que je pense que le travail, en tout cas du rapport, mais d'autres travaux et d'une certaine manière, Stéphane, par sa présence, montre qu'il est aussi ouvert à la discussion et constructif, c'est de dire, on va rentrer dans un moment, je pense, hein, où la croissance des uns va se faire un peu plus au détriment de celle des autres. Sans voir qui, jusqu'à présent, vous l'avez très bien dit, un marché qui passe de 500 000 transactions intermédiaires à 700 000, avec des commissions qui suivent la courbe des prix qui elle-même augmente. Bon, on a fait ce travail-là dans le rapport, on voit bien que ça augmente. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment pour recréer de la confiance, parce que là, on va rentrer dans une période plus difficile, je pense, en tout cas en termes de coexistence des modèles. Donc, apprenons à nous connaître, soyons pas trop caricatural. Je trouve ça aussi caricatural de dire que les réseaux mandataires sont tech là où les agences ne le sont pas, que de dire qu'ils font deux ventes par an. Je pense qu'on peut tous prendre un peu de mesure. J'aime pas l'idée qu'on profite de la crise. Et encore une fois, la question n'est pas bien posée. La question n'est pas bien posée.
On est plus sur un tremplin. Est-ce qu'on a un moment charnière?
On est à un moment charnière, clairement. On voit bien que, encore une fois, trouver un employeur dans plein de territoires, pour plein de profils, qui n'ont pas forcément le bon diplôme, qui n'ont pas forcément la bonne carrière, parce que c'est aussi ça, les gens qui sont en reconversion, il y a une forme de vengeance sociale très forte, de revanche sociale. Et bien, ma foi, c'est pas si mal. Et puis, c'est bien que des gens ouvrent le jeu. Et moi, ce que j'ai envie, c'est une invitation que je lance. Comment on imagine aussi un système où celui qui pose la question, qui réfléchit à devenir conseiller immobilier, pour ne pas rentrer dans la bisbille des mots, comment chez Guilloquet, chez Citia, chez Foncia, ils trouvent aussi... j'allais dire une opportunité sans une barrière à l'entrée financière qui aujourd'hui est quand même hyper forte. Aujourd'hui, on ne s'invente pas gérant d'une agence orpi, alors qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée pour entrer chez IAD. Donc pour moi, si j'étais patron d'un grand réseau, mais peut-être là je sors de mon rôle, je me dirais, ok, comment cette énergie là, parce qu'il y a une vraie énergie dans le pays qui veut prendre son indépendance, comment ils peuvent trouver mon bonheur chez moi? Et je dirais la même chose de quelqu'un qui serait syndic ou gestionnaire locatif dans une agence traditionnelle. Donc pour moi, la question, elle vous est aussi posée de comment vous arrivez à tirer profit de cette énergie qui aujourd'hui, c'est vrai, cette énergie entrepreneuriale qui aujourd'hui profite davantage au réseau.
Moi déjà, je vous remercie de rappeler que le groupe Guilloquet appartient au groupe Arche et que je suis cousin du groupe Le Bon Agent qui compte un peu moins de 200 agents mandataires. Donc ça montre bien le manque d'hostilité du groupe Arche à l'égard de ce modèle économique et qu'on le regarde avec beaucoup d'attention. Et j'en citerai même un autre avec qui je suis très copain, Michael Benchabat, qui est le patron de Meilleur Bien, le cofondateur, qui est un agent aussi, un patron de réseau d'agents mandataires qui a 200. Pourquoi je suis copain plutôt avec que les deux, et pourquoi je m'inscris en faux sur les autres qui travaillent le volume, c'est parce qu'ils sont vraiment sur de la qualité. Et je pense que la question qui est posée demain, c'est la qualité. Autant dans les réseaux comme le nôtre, et on a à nettoyer chez nous, je le redis, que dans les réseaux mandataires, chez qui c'est installé en modèle économique. Et c'est là le sujet. Et on a beaucoup de mal à faire rayonner notre image d'agent immobilier. Daniel, vous le savez également. On a beaucoup de mal à faire en sorte que les agents, que les Français, voient bien quel bon travail nous faisons à leur service. Et donc, c'est par la formation. Et quand on vient par le volume dégrader un peu cette image parce qu'on sait un peu moins bien faire le travail, je m'inscris un peu en faux. Quelle solution on apporte en tant que patron de réseau? Pour le coup, moi, c'est mon travail. C'est de la formation. C'est vraiment de la formation. On a intégré, et croyez-moi, ça secoue dans le réseau chez nous, on a doublé la redevance variable pour intégrer toute l'offre de formation, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun frein pour les patrons aujourd'hui à former leurs collaborateurs. On a ouvert une multiservice, une agence multiservice avec Guy-Hockey Financement, Guy-Hockey Assurance, toutes des marques blanches qui permettent aujourd'hui, qui vont nous permettre demain de packager des offres complètes. Et encore une fois, moi, je ne cherche pas à faire 30 ou 40% ou 50% de part de marché. Je l'ai dit très ouvertement, j'ai un peu plus de 3. Si jamais je veux monter à 4, à 5 ou à 6, il me faut trouver le 4e client, le 5e client ou le 6e client sur 100. Donc, je n'ai pas vocation à servir tout. Et je suis content qu'en complémentarité, un certain nombre de modèles viennent offrir aux Français ce qu'ils le souhaitent. Encore une fois, un investisseur, il peut aller sur PAP, trouver des biens, il aura sa négociation tout seul, il a son banquier, il a son notaire, enfin, il sait tout faire tout seul, il n'a besoin de personne, et lui, il n'a pas envie de payer très très cher, je comprends. Quelqu'un qui ne connaît rien, qui va vendre une fois, deux fois, trois fois sa maison dans sa vie, il a besoin d'un vrai, vrai accompagnement. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui.
Et sur cette crise du Covid, oui, un mot, Vincent, on va revenir
question,
après.
C'est une question,
oui,
pour ouvrir les bas. Bien noté, je suis en accord. Pour moi, le succès des réseaux mandataires pose aussi une autre question, c'est le partage de la rémunération entre celui qui fait la vente et tous les gens qui sont autour. Et quand même, ce que les gens disent, moi j'en ai interrogé franchement dans le cadre du rapport et depuis des dizaines, pour ne pas dire des centaines de mandataires de tout réseau, et avec des gens qui étaient parfois pas hyper contents, parce que ça existe aussi et je veux pas le nier, mais la grosse majorité était contente, ça a été dit par Clément, c'est de dire, bah là quand je fais une vente, j'ai 80% dans ma poche.
D'accord, alors ça, merci pour la question, cadeau. Ah ben ça, vous faites un cadeau. Aujourd'hui, vous faites aujourd'hui, en moyenne, et regardez, je vous invite à le faire, ça poussera un peu plus le rapport, le chiffre d'affaires moyen ou le nombre de transactions, vous n'avez qu'à le ramener, on fera un algorithme, divisé par le nombre de personnes. Les réseaux mandataires, ça oscille entre 17 000 et, je crois, les meilleurs, aux alentours 32 000 euros de chiffre d'affaires. Il leur donne 70% en moyenne, puisqu'il faut atteindre des seuils beaucoup plus importants pour atteindre les 99%. À 30 000 euros, j'ai envie de leur dire, arrêtez de leur donner 70%. Donnez-leur 100%. Parce que dans les réseaux organisés, je vais citer Orpi, Century 21, La Forêt, ERA, Plaza, Guy-Hockey, je vous cite tous ces réseaux-là, en moyenne, les collaborateurs sont payés 40%, 30% de moins, hein, puisque c'est la question que vous posez. Par contre, c'est en moyenne 100 à 120 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 40 à 50 000 euros, ça fera toujours beaucoup plus que 30 ou que 17, beaucoup plus. Et on leur donne que 40. Donc aujourd'hui, c'est de ça dont on parle, la formation, la capacité à produire. Ils ne font qu'un métier. Mon grand-père, il disait 1000 métiers, 1000 soucis. Et je crois qu'il avait raison et que je comprends mieux ce qu'il disait il y a très longtemps de ça. Donc aujourd'hui, c'est ça le sujet. C'est vraiment ça. Ça, c'est mon sujet. C'est le chiffre d'affaires moyen par collaborateur qui leur permet de vivre aujourd'hui. Ça m'intéresse. Par contre, ne pas les former, accessoirement, il faut juste dire que chez nous, ils ne payent pas. En revanche, chez les réseaux d'agents mandataires, ils payent. Hein. Ils payent l'accès au logiciel, l'accès à la communication, ils payent leur carte de visite, ils payent leur
panneau. Clément Delpirou,
ouais,
sur le sujet.
Le franchisé, il paye une redevance.
Non, le franchisé, pas le collaborateur.
Messieurs, Clément Delpirou.
J'ai l'impression que sur les chiffres, là, on a été moins pédagogique que Vincent dans son rapport. On persiste à parler de boucher agent immobilier qui ferait une transaction par an, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et on est très transparent sur les chiffres. Hein. On est sur passer la période d'intégration, puisqu'on assume très fortement le fait d'intégrer des néophytes qui, sur les 12 ou 18 premiers mois, ben, vont se former, comme dans tous les métiers, donc il faut qu'ils mettent un petit peu d'argent de côté. Parce que oui, vous avez raison, derrière, ils ont un bouquet de services qui leur coûte 163 euros par mois en France, dans lesquels ils ont une diffusion illimitée sur tous les portails, en plus de la formation, en plus de l'assistance juridique, en plus du back-office. Donc Vincent en parlait tout à l'heure, entre ça et ouvrir une franchise, c'est deux propositions de valeur différentes. Mais sur ces équipes-là, on est sur des montants de transactions annuelles, j'en parlais tout à l'heure de façon là encore très transparente. À partir de la troisième année, on est sur des gens qui gagnent d'abord 40, puis 50, puis 60 000 euros. Et puis surtout, c'est pas le concept, c'est pas la course à j'ai fait 200 000 et j'ai gagné la médaille d'or. C'est des gens qui disent, Bah oui, moi, ça me prend peut-être 30 heures par semaine, peut-être 40 heures par semaine, peut-être 50 heures par semaine. Moi, j'ai envie d'être extrêmement performant et donc de pousser le modèle au bout et d'aller gagner 80, 100 000 euros. Il y en a plein chez nous, il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Et donc, c'est le choix et la liberté qu'on offre à chacun d'avoir, en plus de travailler là où il veut, de travailler de la manière dont il veut. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Et moi, je trouve ça assez moderne de ne pas être forcément dans le... pour ceux qui ne le souhaitent pas, dans une course à la performance individuelle. Et puis, je réagis sur le double métier, parce que c'est un chiffre que je n'ai pas partagé avec vous, et je pense qu'il est très comparable dans d'autres réseaux. Mais chez IAD, sur 100 conseillers, vous en avez 20 qui font IAD et autre chose, et 80 qui font que ça. Donc, 20, et puis dans quelle part de boucher, j'avoue que j'ai pas préparé assez mes fiches, je pourrais pas vous dire, mais c'est des gens qui, en effet, souhaitent une partie de leur temps faire autre chose. Ça peut être, en effet, un métier rémunéré, mais ça peut être une activité associative ou plein d'autres manières de s'intégrer. Et là encore, ce fait d'être sur une partie, 20% de nos entrepreneurs qui sont sur du part-time, là encore, ça me paraît assez sérieux, moderne, et ça s'inscrit dans les attentes et des clients et des conseillers.
Et justement, pendant cette crise du Covid, Clément Delpirou, on l'a dit, hein, certains ont perdu un emploi et donc du coup, ils essayent en tout cas de retrouver un projet de vie, un projet professionnel autre. Comment réussir à les attirer, vous, en tant que directeur général du groupe IAD, dans votre réseau, et comment réussir surtout à les retenir, à les garder?
Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, cette promesse du changement de vie, on la travaille depuis 13 ans. C'est-à-dire que la statistique de 82% des conseillers qui ne viennent pas de l'immobilier, elle est collée à la peau d'IAD. C'est notre modèle, là encore, il n'est pas forcément meilleur, mais en tout cas, c'est le nôtre. Donc, tout le travail qui consiste à leur donner envie de venir, les former et les accompagner à travers le système de parrainage le déroulé de leur vie d'entrepreneur chez IAD, c'est quelque chose qu'on fait depuis 13 ans. Ce n'est pas nouveau avec la crise du Covid. Ce qui est nouveau avec la crise du Covid, c'est qu'il y en a plus. Vous avez raison. Un, parce qu'il y a des gens qui ont été fragilisés. Les métiers dont on parlait tout à l'heure, c'est en effet des gens qu'on voit arriver peut-être de façon forte que ce qu'on voyait arriver chez IAD avant. Et puis, il y a une deuxième dimension qui a aussi beaucoup changé et qui est vraiment très, très prégnante, c'est la dimension géographique. Parce que vous avez beaucoup de gens qui, en ayant été enfermés chez eux pendant des semaines, se disent « Ah ben moi, j'ai envie d'aller faire mon métier à un autre endroit en France. Ça fait 20 ans que je voulais déménager en Bretagne. » Et une des caractéristiques des réseaux de mandataires, c'est qu'il n'y a pas de notion de territoire attitré. C'est-à-dire que si on veut se lancer dans un autre endroit, on a cette capacité d'y trouver un parrain et de se développer. Et donc, dans le fait de pouvoir répondre à ces questions du moment qui ont été exacerbées par la crise du Covid, où j'en pouvais plus de ma réunion Zoom ou Teams avec mon chef qui me disait faire comme ci, comme ça, alors que mes enfants étaient dans la maison et que mes journées étaient extrêmement compliquées, le fait de changer de vie, de prendre son destin professionnel en main, d'être son propre patron, mais d'être parrainé, donc accompagné avec des contenus, de la sécurité juridique, du sérieux, et ceci potentiellement dans une autre géographie. À tous ces ingrédients-là, ils font partie intégrante du modèle. Ensuite, là où vous avez raison, c'est que dans ce moment de Covid, on a des gens qui sont fragilisés, donc tous les managers sur le terrain et l'ensemble des équipes d'IAD sont d'autant plus vigilantes au fait qu'on les intègre et quand ils ont des difficultés, on les accompagne pour faire en sorte qu'ils restent chez nous. Et d'ailleurs, hein, l'année 2020, année de Covid, a été celle sur laquelle le taux de départ chez des conseillers du réseau est le plus faible de l'histoire d'IAD. Donc, en mettant ça en place, il n'y a pas de fatalité.
Daniel Dubrac, une réaction. On est à un moment charnière.
On est à un moment charnière. Je pense qu'il faut regarder comment, effectivement, mieux se former. La réglementation se durcit, donc autant qu'on ait un combat collectif sur des prises de position. Avec la rénovation, de toute façon, il va y avoir des difficultés sur les transactions parce qu'on vendra que à des gens qui habiteront et non pas qui ne pourront plus louer. Donc attention, il y a d'autres combats. Il y a la démographie aussi, donc ça veut dire qu'on aura besoin de plus de logements. Il y a aussi l'offre par rapport à la demande. Il va y avoir un déséquilibre. Après, il n'y a pas de sujet tabou quand même. Chacun, finalement, mène sa vie. On peut être salarié, on peut être chef d'entreprise avec son propre emploi. On peut avoir des collaborateurs, on peut avoir des agents co aussi, sans être dans un réseau de mandataires indépendants. Tout ça, ça fonctionne. Moi, je pense qu'il faut regarder. Ces réseaux de mandataires indépendants ont été très visionnaires. très visionnaire. Là, on parlait de reconversion. Oui, c'est un métier où on peut se reconvertir. Ce n'est pas forcément une perte d'emploi, ça peut être aussi une orientation.
Oui, ça peut être un nouveau projet professionnel, voilà. Mieux allié avec un projet dit, finalement, on l'a dit.
La formation, il y en a. Il n'est pas pensable de dire qu'il n'y a pas de formation, qu'il n'y a pas d'outils. Voilà, ce n'est pas vrai. C'était peut-être vrai au départ, mais ça, c'est des arguments d'arrière-garde. Et puis voilà ce que je voulais dire. Donc je pense qu'il faut regarder comment le marché immobilier évolue. Il a évolué comme ça. Ils étaient précurseurs. Peut-être qu'il y aura d'autres modèles qui vont arriver. Peut-être qu'il faut aussi se méfier des GAFA qui vont se mettre sur le marché de la transaction de la location. C'est peut-être, nos combats sont peut-être ailleurs, dans d'autres modèles que ceux qu'on est en train d'évoquer. Voilà, en tout cas, nous, syndicats UNIS, on était ravis d'avoir l'interface à rédiger de ce rapport. Lisez-le, il est intéressant, il est factuel. Il n'est pas partisan, ce n'est pas vrai. Il n'est pas orienté.
Il
n'est pas orienté. Il pose les bases.
J'avais envie d'en parler avec vous, bien évidemment.
Il pose les bases. Et puis, on est en train de dire 80%, 20% sur les honoraires. La vraie question, c'est quels sont les honoraires que le client final aura envie de payer ? Ça, c'est un vrai sujet. Et on est tous complémentaires là-dessus. C'est pour ça qu'il faut s'approprier.
Le modèle dont vous parlez, il part sur deux choses qui sont fausses. Deux choses fausses sur poser le modèle des pseudo-start-upers. C'est un, les agences n'existeront plus demain, ce qui est faux. On n'a jamais été autant aussi nombreux que depuis qu'ils sont là. Et deux, la com est trop chère. Sur la com est trop chère, la com, elle n'est jamais trop chère. Ça n'a rien à voir avec trop
c'est
cher.
C'est le client qui décide. Non, le client évolue. C'est le client qui
Daniel,
décide.
Je suis d'accord
c'est
avec vous sur ça.
C'est la satisfaction du client
aujourd'hui,
qui est importante.
Vous avez de zéro à très très cher. Le client, il a le choix. Vous avez de l'hyper-concurrence partout. Donc le client, il n'est pas floué, il n'est pas en train de se faire tondre. Il peut aller là où il veut. Donc il n'y a pas de sujet avec ça. Et dire que la com est trop chère, c'est faux. C'est la perception du service rendu. Si demain, et c'est notre parti pris, si demain vous accompagnez dans le financement, que ce soit vous l'accompagnez complètement ou vous indiquez dans l'assurance, dans la gestion, dans les travaux, dans le déménagement, et si on formule un rêve d'agent immobilier de demain, vous inscrivez les enfants à l'école. Si on fait ça, la perception de la commission, elle n'est pas un sujet. Elle n'est pas un sujet pour les Français. D'ailleurs, les Français qui contractent, quand ils sont contents de leur achat, quand ils posent leur com sur 25 ans, ils se disent que ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Ce qui est un sujet, c'est la façon dont j'ai été mal servi. Et cuisine à gauche, salon à droite, je ne peux pas payer 10 000 balles. Quoi. C'est un peu compliqué.
Vincent,
pour
Van Hélon, en quelques mois, on arrive déjà quasiment à la fin de l'émission.
Ouais, sur la commission, moi, je pense qu'il y a deux excès à éviter. Le premier, c'est de dire les agences s'en mettent plein les fouilles, c'est scandaleux. Moi, j'ai jamais dit ça et franchement, c'est pas la réalité. Et on connaît les taux de marge des agences et des réseaux.
Sûr.
Et franchement, à la marge, on peut discuter. Mais... Et je pense qu'il y a un autre excès, par an, je pense que Stéphane, vous flirtiez avec ce deuxième excès, malheureusement, c'est de dire qu'il n'y a pas de sujet de prix. Là, pour moi, c'est un peu aveugle. J'ai pas la solution. D'ailleurs, on parlait avant des agences en ligne à prix fixe. J'ai dit ce que j'en pensais. Donc, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est de dire.
Je suis d'accord avec vous.
Les gens veulent payer moins. Après, peut-être à tort.
Non, mais tout le monde veut payer moins. Si vous demandez aux Français, même à Carrefour, même si j'avais. Par contre, ils veulent pas qu'on produise en Chine, mais ils veulent payer moins. Donc, cette contradiction en tant que commerçant, peu importe le secteur d'activité, on la connaît.
Elle est forte.
Bien évidemment que c'est cher. Mais qu'est-ce qui est cher ?
C'est le rapport qualité-prix.
Non, mais qu'est-ce qui est cher ?
Il y a un sujet de service. Et pour autant, pour le coup, je trouve qu'il s'améliore plutôt dans l'ensemble. Mais il y a un sujet de prix quand même. À tort ou à raison, les gens ne veulent
plus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens qui viendraient faire une à deux ventes et dont on ne perçoit pas vraiment le service, et pour le coup, la com soit la même, ça peut poser problème.
La com n'est pas exactement la même.
Aujourd'hui, on a un problème d'image chez les agents immobiliers. Et je souhaiterais aujourd'hui qu'on regarde. Et c'est vrai que quand on a un bon agent immobilier face à soi, aujourd'hui, on le recommande. Mmh. On le reprend pour un deuxième achat. On le prend pour la gestion de son bien. Quand on a une question immobilière, on vient le voir lui. Mmh. Donc, ce n'est pas vrai que l'agent immobilier, c'est une mauvaise personne un escroc.
Je ne l'ai pas dit, je ne le pense
pas.
Ce n'est
pas le sujet. Le sujet, c'est le service rendu. Ouais. Et quand on a un très, très bon service, on n'a pas de problème quand tu as payé l'agent immobilier.
La valeur ajoutée, la satisfaction client.
Le fait quand même que les mandataires n'ayant pas de frais fixes soient quand même et quand même des commissions un peu moins chères,
c'est faux.
Pour le coup, je pense aussi le démontrer dans le rapport. On peut remettre en cause les hypothèses les unes après les autres, mais je pense le mettre en avant, c'est un argument aussi. C'est pas le seul. D'ailleurs, c'est pas celui de mettre en avant les réseaux, mais c'est un argument aussi pour le consommateur. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu le constater en parlant aussi avec des vendeurs et des acheteurs.
Alors, je vous le redis encore, les chiffres d'affaires par collaborateur sont plus élevés dans les agences que chez les mandataires aujourd'hui.
Ce qui montre bien ce que je dis.
C'est pas uniquement. Non, c'est par le volume. C'est par le volume.
Un dernier point, pardon.
Et le service rendu.
je pense qu'au fond, on n'est pas si loin de s'entendre. Moi, là où je trouve, et je suis vraiment déçu, et là pour le coup, c'est pas une question d'ego, c'est une question de... Le rapport est sorti il y a 2 semaines. La FNAIM n'a toujours pas dit un mot. Ni pour, ni contre, ni on est d'accord avec ça, pas avec ça. Moi, je suis hyper ouvert. C'est une contribution au débat. Pas un mot, Jean-Marc Thourion, à mon numéro de téléphone, il sait où me joindre, il peut appeler aussi l'UNIS. Ignorer totalement la sortie du rapport, c'est quand même une forme de mépris. Et ça m'inquiète un peu sur l'avenir des relations entre les mandataires et les agents.
Mais tout à l'heure, Daniel parlait de la MEPI.
En quelques mots, on arrive. Il faut entendre également des pyros ici, s'il vous plaît, messieurs dames.
C'est exclusif. Mais c'est quand même un appel.
Oui, à mon grand désarroi, moi, j'aimerais qu'il soit dedans, parce que ma bataille à moi, elle n'est pas les réseaux ou les modèles. Elle est aujourd'hui les bons et les mauvais.
Vous êtes adhérent de la FNAIM, j'imagine, donc le message soit bien passé. Franchement, c'est un peu méprisant. Pour celui qui l'écrit, ça, c'est pas grave, mais pour les 40 000 personnes qui travaillent, je trouve que c'est un peu plus grave. Voilà, c'est un message que je voulais passer. La vie est longue, on n'est pas encore à la fin de l'année.
Oui, après, il a peut-être d'autres sujets en ce moment, Jean-Marc Thourion.
La plateforme des réseaux, elle est à UNIS aujourd'hui, grâce à ses mandataires, et je les remercie d'être là.
Clément Delpirou, en quelques mots, le client dans l'histoire, in fine, c'est lui qui décide, on l'a dit depuis le début, on le dit depuis le départ.
Oui, bien sûr, et peut-être pour enrichir le débat qui a eu lieu à l'instant avec... notre vision d'un peu plus que pseudo-startupper, vous avez raison de dire que le prix, ce n'est pas l'élément numéro un. Nous, on interroge régulièrement nos clients pour voir qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils trouvent chez IAD, qui fait que sur toutes les plateformes, IAD fait partie des réseaux dont le niveau de satisfaction est le plus élevé et qui fait surtout, c'est presque un mystère pour nous, qu'on a 14% de nos conseillers qui sont d'anciens clients. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Un, disponibilité, réactivité. D'accord? Et ça, forcément... sans faire de la caricature entre salariés et entrepreneurs, bah quand c'est votre boîte, vous décrochez le téléphone à 21h ou vous organisez une visite avec peut-être encore plus d'énergie. Deux, connaissance du tissu hyper local. Bah oui, effectivement, on est nombreux. Donc, ça fait que comme on est nombreux, on maille le territoire et on connaît très, très bien telle ou telle région de la commune dans laquelle vous habitez. Trois, vous avez raison, le prix. Donc, élément numéro 3. Factuellement, dans toutes les études, hein, et c'est pas le point numéro 1, c'est pour ça que c'est important d'être en effet mesuré et précis sur le sujet, mais la commission des mandataires est de l'ordre de 20% inférieure à celle de la moyenne du marché, donc il y a toutes sortes d'acteurs, là encore, qui amènent toutes sortes de prestations, mais factuellement, c'est le cas. Et puis, 4, la différence, c'est-à-dire qu'on parlait du sujet de l'image, et je pense qu'il faut... et c'est un vrai sujet, parce que agent immobilier ne fait pas partie des professions préférées des Français, dans les autres pays non plus. Et donc, l'élément numéro 4 que les vendeurs viennent chercher, c'est la différence par rapport à la caricature qu'ils avaient en tête de ce qui pouvait être peut-être un mauvais agent immobilier il y a 10 ans. Et je pense que là-dessus, c'est un combat sur lequel on peut peut-être tous se rejoindre, de faire en sorte que vous avez raison de dire, les outils ont changé, la techno, il y en a partout. Hein. Mon propos, il était juste de dire que nous, on n'avait pas d'agence physique, donc c'était la technologie qui était au cœur, mais on sait qu'il y a des très bons outils dans les réseaux traditionnels. Mais donc, comment on fait qu'aujourd'hui, à travers le service, la technologie, vous l'avez dit tout à l'heure, la visite virtuelle, l'évaluation de prix très pertinente, tous ensemble, on arrive à faire en sorte que cette profession, elle soit de mieux en mieux aimée des Français et que donc, ils acceptent d'autant plus facilement les honoraires pour que notre marché continue à bien se porter. Et je pense que là-dessus, on peut tous aller dans le même sens.
Il nous reste une minute avant la fin de l'émission. Daniel Dubrac, le mot de la fin, très synthétiquement.
Le mot de la fin, déjà, effectivement, nos métiers n'ont peut-être pas réussi à se valoriser. C'est le coût de l'acte de gestion en tant que tel qu'on n'a pas réussi à... on n'a pas réussi à donner un prix. Enfin, les gens ont l'impression de payer pour rien. Et ça, c'est à nous de leur montrer la valeur ajoutée. Et puis, je dirais que le rapport, il est intéressant parce qu'il est là pour mieux se connaître et mieux s'entendre et mieux se comprendre. Et c'est un petit peu le pari qu'a fait UNIS il y a quelques années. Et c'est pour ça que ce rapport est intéressant.
Eh bien, écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin. On fera une deuxième émission parce que je sens qu'on a encore plein de choses à dire, plein de sujets à évoquer aussi. Merci beaucoup, Vincent Pavanello, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Clément Delpirou, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de participer à cette émission spéciale. Merci beaucoup, Daniel Dubrac. Merci beaucoup, Stéphane Fritz,
merci
d'avoir été
vous.
Avec nous.
Merci.
Et puis moi, je vous dis à très vite. Au revoir.
L'inéluctable ascension des mandataires immobiliers. Entre mythe et réalité, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.